les plus grands comprennent les enseignements pour la vie. Je pense que Jésus, dans ses marches avec ses apôtres, devait se servir de l'Ancien Testament, parce qu'il le connaissait, pour expliquer le royaume de Dieu, la présence de Dieu avec nous. Il devait utiliser les proverbes, et puis les histoires d'oiseaux et de graines, de poissons, de constructeurs, de maisons. Il utilisait, il illustrait, mais ce qui nous nourrit, c'est pas l'illustration, c'est la parole. C'est ce que Dieu dit et que nous développons, que nous inscrivons dans notre vie quotidienne. Prenez bien garde à la parole que vous entendez et que vous lisez. Alors cet été, je pense que vous avez passé de bonnes journées, de bonnes nuits. Il faisait très chaud. Il y a eu une canicule sur une grande partie du monde. Vous connaissez cette parole de l'Apocalypse ? Un ange qui verse sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné au soleil de brûler les hommes par le feu, c'est-à-dire par la chaleur. Et les hommes furent brûlés, ils n'ont pas été dans le soleil, mais la chaleur les a fortement bousculés. Et suite à cela, l'Apocalypse dit, au chapitre 16, les hommes blasphémaient, était contre Dieu, était en colère après Dieu et disait des choses contre le Seigneur. Et il ne se repentait pas, il ne changeait pas de comportement dans ce fléau. Je ne pense pas que ce que nous avons vécu cet été, ce soit ça, mais ça m'a fait penser à ce fléau de l'Apocalypse, qui nous dit que le soleil, qui est une bénédiction comme la pluie, pour la terre, eh bien, ce soleil, il deviendra un fléau. Normalement, en quelques années, là, nous allons augmenter, la température du monde va augmenter de 3 degrés, ce qui est énorme. C'est-à-dire, dans quelques années, nous allons avoir des étés avec 55 degrés, ce qui est énorme. Nous aurons du mal à vivre. Et dans tous ces temps-là, il nous faudra nous accrocher aux frères et sœurs, à l'Église, à la parole de Dieu. Mais il est dit, les gens ne changeront pas de mentalité. Ça ne les fera pas réfléchir. Cet été, ce n'est pas l'Apocalypse, mais quand même, c'est en chemin et toute la planète, dans tous les continents, a été touché par la chaleur à cause de l'activité des hommes, de l'industrie des hommes, de l'argent, à cause de l'amour de l'argent. On n'en a rien à faire du reste. Ce qui compte pour les hommes d'aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent. C'est la Bible qui le dit. Je comprends maintenant cette parole de l'Apocalypse, chapitre 7, quand il est dit « Le soleil ne les frappera plus. » Le soleil n'y a aucune chaleur. Mais pendant des années, je me suis dit « Mais le soleil ne nous frappe pas. Le soleil n'est pas méchant avec nous. Le soleil nous fait du bien. » Mais maintenant, je comprends. Quand nous arriverons dans le royaume, nous serons libérés. La génération de l'avènement de Jésus sera délivré de chaleur, du soleil qui frappera l'humanité. Je ne vous parle pas de ça ce matin, je vais aller vers les proverbes justement. Mais les bouleversements du monde que tout le monde observe, moi je ne suis pas un scientifique, mais tout le monde observe des bouleversements et ça inquiète le monde. Ça doit nous préoccuper dans notre façon de vivre et de prier. Nous ne reverrons jamais, jamais le monde d'avant. Jamais. Nous ne reverrons jamais des glaciers, des saisons normales. Nous avons, disent les scientifiques, 20 ans, excusez-moi, je vous parle de ça, mais c'est pour nous mettre en correspondance avec le monde. Je crois que Jésus, aujourd'hui, il nous parlerait de l'actualité aussi. Nous n'avons que 20 ans, disent les plus grands spécialistes, pour réagir avant que la banquise fonde complètement. Et là, je ne parle pas des menaces de guerre qui s'accélèrent. Pourtant, en Chine, on a des missiles qui vont 3 fois plus vite que la vitesse du son. Mais la Russie réplique, nous en avons qui vont 20 fois plus vite. Seigneur, garde notre temps et garde ton Église fidèle à l'heure aussi, qu'elle soit à l'heure, le jour où tu viendras pour nous chercher, car tu viens bientôt. Amen. Je vous lis quelques versets des Proverbes dans le 22e chapitre. Donc, il ne faut pas que notre joie chrétienne soit sans mémoire, déconnectée, étourdie, anesthésiée. Nous devons ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et sur les choses qui vont arriver bientôt. Alors, je lis avec vous Proverbe 22. On ne va pas tout lire. Je crois qu'il faut mieux lire peu et retenir beaucoup. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. On peut relire ? Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La Bible parle beaucoup de paresseux, sur tous les proverbes, de négligents. Le paresseux, dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui cherche à ne rien faire. C'est l'homme qui a peur du monde extérieur et qui se cache, qui rentre dans la terre, qui se replie. Il y a un lion dehors, mais les lions ne se promènent pas dans les rues, même en Afrique. Ils ont des régions, ils ont des lieux pour se promener. Peut-être que cet homme-là, il a imaginé qu'il a vu un lion. Il finit par y croire. Et il a peur. Il est paralysé. Il ne devient pas occulte. Il ne va plus travailler. Il est paresseux parce qu'il a eu peur du lion. Mais peut-être, pardonnez-moi, peut-être qu'il y a vraiment un lion qui rugit. Mais en tous les cas, lui, bien prudent, l'homme, il reste chez lui, bien barricadé, caché dans sa chambre, et il dit, je serai tué dans les rues, j'y vais pas. Mais dehors, monsieur, il y a des enfants. Il y a un lion, mais il y a aussi des enfants. Il y a des personnes âgées. Il y a des grands-mères qui ne courent pas vite et qui vont être dévorées par le lion. Alors celui qui dit « il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues », eh bien c'est quelqu'un qui n'est pas responsable. Ce n'est pas un bon père de famille, ce n'est pas un berger. C'est quelqu'un qui pense à lui. Il est loin le temps où il y avait un lion tombé dans une citerne au temps de David et un homme est descendu dans la citerne un jour de neige. On n'y voyait pas grand-chose. Il a tué le lion parce qu'il y a des enfants qui peuvent être blessés. Il y a des dangers dehors, mes amis. Il y a aujourd'hui beaucoup d'attaques au couteau dans nos rues de France. Il y a des dangers. Et nous devons éduquer, prier, prévenir, protéger. Éduquer sur les dangers réels de notre monde. Éduquer sur le bien, sur le mal, sur les destructeurs de la vie. Sur le pouvoir du mal. ne pas les laisser aller dans l'engrenage, dans la spirale de toujours plus de pognon. Pardonnez-moi, c'est une spirale infernale, ça. Ne dormons pas, restons pas repliés sur nous-mêmes. Nous avons créé la bombe atomique. Aujourd'hui, Hiroshima, on fait 30 fois mieux. Demain, une seule bombe pourra tuer 10 millions de personnes. Mais il y a la bombe, mais il y a aussi le lion. Il ne faut pas qu'on soit super inquiet pour la bombe atomique qui nous fait peur à tous, mais qu'on soit aussi très inquiet pour le lion, c'est-à-dire le diable, parce qu'il y a un lion dehors, oui. Et ce lion, c'est Satan, qui rôde autour de vos enfants, autour de vous quand vous commettez le péché. Il rôde et il cherche qui il pourra dévorer. Dévorer, ça veut dire manger sa vie, son intelligence, son avenir. On dit que dans la nature, tous ceux qui sont ensemble, tous ceux qui s'entraident chez les animaux, chez les plantes, quand on s'entraide, on résiste. Mais dans l'Église aussi, quand on est un dans la prière, quand on est ensemble pour lutter, on résiste au mal. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a un lion dehors, je dois l'affronter pour sauver le village. Voilà ce que je traduis. Ça va, je peux continuer? Il y a beaucoup de proverbes. Encore un. On va lire dans le proverbe 22, on reste dans le 22, au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie, selon le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Dès le commencement. Autrefois, il y avait une forte mortalité infantile. Sur 12 enfants, il en restait 3. Les enfants mouraient très jeunes. Et on disait aux parents, ne vous attachez pas trop à vos enfants, parce qu'ils ne vont pas tous vivre, il y en a peut-être 1 sur 4 qui va vivre. Alors c'était déchirant pour une mère de ne pas s'attacher à son enfant. Il y a des mères parmi nous. Et des grands-mères. Mais la Bible dit, dès son enfance, occupe-toi de l'enfant et instruis-le selon la voie, le chemin qu'il doit suivre. Il faut un bon départ. Il y a parfois eu des bons départs et des mauvaises arrivées. C'est comme le Tour de France. Il y a eu des bons départs et 2 jours après, les gens ne viennent plus. Il y a eu des magnifiques conversions qui n'ont duré que le temps d'une saison, des baptêmes qui n'ont duré que 3 jours. C'est vrai, il y a des départs et des arrivées un peu brutales, mais je crois dans ce départ. Je crois que dans chaque graine de la création, il y a une force, la force du géant. Il y a des arbres en Tanzanie, il y a des arbres qu'on appelle le hou royal. Des arbres qui ont 47 000 ans. À côté, nous, on est des tout petits. Il a vu naître nos premiers ancêtres. On peut dire qu'il a vu naître la création de l'homme. Il y a des arbres qui ont dans leurs graines une force extraordinaire, mais il y a de la bonne graine parmi nous. Parce que nous vivrons éternellement. Et on néglige pas sa vie chrétienne, on néglige pas la charité, la miséricorde, la prière, la parole. Vous savez, les enfants, c'est comme une terre mouillée. Sur la terre mouillée, quand on marche, on laisse des empreintes. Et il faut leur laisser des empreintes de nous. Et je pense que avec l'école du dimanche, avec l'éducation des parents, avec les cultes, avec des petits livres spécialisés pour les enfants, je pense que nous leur laissons une empreinte. Nous ne savons pas comment Dieu leur parle. Je sais qu'il m'a parlé dans mon enfance, quand j'avais 7 ou 8 ans. Je ne sais pas comment il m'a parlé, mais il parle aux enfants. Mais nous continuons de leur donner une empreinte de Dieu. Et quand il y a une trace de Dieu dans l'enfant, elle reste, c'est une parole permanente. Depuis ma tendre enfance, Dieu m'a parlé et jamais, jamais, jamais j'ai douté de la parole de Dieu. Ma vie était faite pour Dieu qui m'avait convaincu. Mais je crois que c'est une expérience que tous les enfants peuvent vivre. Quand le temps passe, la terre elle devient moins humide, elle devient plus dure et on laisse moins de traces, moins d'empreintes et les parents pleurent parce que des enfants ne suivent pas, ne viennent pas, ne se décident pas. Alors ce verset instruit l'enfant, ça veut dire aussi qu'un mauvais départ peut avoir des conséquences sur toute la vie. Quand on commence courbé, tordu, c'est le livre de l'Ecclésiaste qui dit « Ce qui est tordu, qui pourra le redresser ?» Il faut vraiment un miracle. Il faut la grâce de Dieu, parce que quand on est tordu, on reste tordu. Alors, cela veut dire, eh bien, il y a des mauvais départs qui ont des conséquences. Je pense qu'il faut donner à l'enfant, dans sa jeunesse, des paroles. Ne pas dire à l'enfant qui est Jésus. Certains parents m'ont dit « je veux respecter sa liberté ». Je veux respecter sa liberté. Autrement dit, je ne lui parle pas de Jésus. Mais mes amis, c'est une désobéissance au commandement du Seigneur. C'est un manque d'amour. Mes amis, c'est ne pas respecter sa vocation. C'est de la paresse peut-être. Un manque de responsabilité. Instruis l'enfant. S'il n'y a pas d'éducation, les conséquences peuvent être tragiques. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences de l'égoïsme, les conséquences d'un progrès qui a dépassé l'homme et pour lequel on a donné tout. Il est devenu le Dieu de ce siècle. Et aujourd'hui, on a les conséquences. On enlève les arbres de la forêt amazonienne et ça va déséquilibrer tout le climat. Les arbres de Suisse souffrent parce que les arbres de l'Amazonie sont coupés. Tout est interdépendant et nous avons besoin de se dire « Moi, je fais ma part avec mon enfant, d'autres prendront la relève, d'autres lui parleront plus tard, mais je veux lui donner sa part. » Oh, notre éducation n'est pas parfaite. Nous ne savons pas toujours comment parler aux enfants. Mais il faut de la souplesse, il faut de la fermeté, il faut aussi de la sévérité sur l'éducation, puis du sourire, et puis répéter, et jamais abrutir, jamais leur faire apprendre des tirades et des psaumes de la Bible s'ils n'en ont pas le désir. Il faut respecter l'enfant. Certains pensent que l'enfant va s'éduquer tout seul grâce à vos prières. Moi, je pense que vos prières, c'est pour mieux agir. Les animaux ne s'éduquent pas tout seuls. Je vous ai déjà dit, il y a 3 ans, il y avait dans mon jardin une chatte qui a mis au monde 4 petits. On les a gardés. Ils sont partis maintenant dans des familles, bien sûr, heureusement. Mais au début, ils étaient là et on a vu l'éducation. Et la mère, le soir, elle sortait et les 4 tout petits suivaient. Et quand la mère crachait contre moi parce qu'elle avait peur que je lui vole ses enfants, tous les petits crachaient. Et quand la mère partait, tous les petits partaient. Et quand un petit quittait la voie étroite, marchait sur un mur, la mère allait le chercher par la peau du cou et le ramener. L'éducation. Et l'être humain, il a besoin d'être instruit selon la voie qu'il doit suivre. Et plus tard, il ne s'en détournera pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va aller? Déjà, avec ça, vous avez beaucoup de choses à mettre en pratique. On va lire ensemble encore le verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie, sur le chemin de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Dans la vie, nous rencontrons des gens méchants. Jésus nous met en garde. Méfiez-vous des hommes. Ils trafiqueront de vous. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Je vois qu'il y a sur mon chemin, sur le vôtre, des gens tordus qui, par toutes sortes de manœuvres, essaient de nous faire dévier, ils essaient de nous accrocher. D'ailleurs, le mot ici, dans la Bible, en hébreu, c'est le mot « crocher », « hameçon ». Il y a des gens qui veulent nous attacher, nous accrocher. Et Jésus dit, ne fréquentez pas les gens troubles. Ne fréquentez pas, il est dit, dans les derniers temps, les hommes deviendront égoïstes. Qu'est-ce que ça sera? Je pense qu'on ne regardera plus jamais le voisin, la voisine, le prochain. Ils seront amis de l'argent, fanfarons. Il n'y a qu'eux qui font bien, les meilleurs. On ne pourra pas parler avec eux. Ils seront cruels. Ils garderont la forme de la piété chrétienne, mais ils renieront ce qui en fait la puissance. Et l'apôtre dit, éloigne-toi. Nous, parfois, on est tellement gentils et tellement chrétiens qu'on dit, ben, va avec lui, mange avec lui, bois avec lui, rigole avec lui. L'apôtre dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien sûr, on vit les uns à côté des autres, mais je pense qu'il faut mettre des freins et mettre des barrières. Les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes habitudes. Les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes habitudes. Vous savez, le mal est contagieux. La santé, c'est pas contagieux, la santé. C'est la maladie qui est contagieuse. C'est le mal qui est contagieux. C'est pas le bien que nous faisons. Nous pratiquons le bien pendant des années et les gens sont indifférents. Ils disent, oui, c'est votre religion. Ils ne sont pas touchés par le bien. Mais le mal a la capacité de nous troubler, de nous griffer, de nous accrocher, de nous jeter un appât sur nous. Que Dieu vous bénisse.